Bon, mais après, faut rester
On
dans les
peut
meubles aussi,
commencer
il
là
faut être
ou
installé.
qu'est-ce qu'on attend? On attend que 5, 3 minutes?
Ouais, mais on va pouvoir commencer. Ouais, 21h30, on va commencer. Et puis, ceux qui arriveront en cours de route pourront écouter l'enregistrement. Donc, bonsoir tout le monde. Donc, Victor, ce soir, on te reçoit. On va parler. Donc, la soirée sera en deux parties.
En
Donc,
deux
une
parties,
première
donc
partie
une
qui
première
sera la plus
partie qui
courte,
sera la plus courte.
qui fera un petit point,
Un petit
une
point.
petite mise à jour sur l'affaire Assange, où est-ce qu'on en est. On en a beaucoup parlé quand il y a eu le procès. Et maintenant, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe pour ce héros et qu'est-ce qui se profile pour nous du coup dans un avenir plus ou moins proche. Et deuxième
Deuxième
partie qui sera donc
partie.
sur Cuba. Cuba, une île que tu connais bien, sur laquelle tu as été pas mal d'années. Et du coup,
Ouais.
nous parler de cette île assez méconnue et le peu de fois où on entend parler, c'est vrai qu'on a l'impression que bah, sur place, c'est, je sais pas, une dictature, c'est un pays très dur, etc. Et apparemment, selon les premiers témoignages, c'était voilà, l'idée qu'on avait, c'était un peu finalement comme le dossier Assange. Si on n'a pas vraiment creusé l'affaire, tout ce qu'on croit savoir dessus est probablement faux. Je ne sais pas
Ouais,
si c'est un peu
exactement.
la même chose. Hein. Donc voilà, je te laisse démarrer première partie de Julian Assange. Et pour les auditeurs ceux qui sont là, donc il y a un code à l'écrit pour pouvoir poser des questions. Victor est assez souple, donc au fur et à mesure qu'il parle, s'il y a des questions, des points éclaircir, on peut poser des questions, il répondra. Sinon, les questions seront à la fin et il y aura un échange un peu plus libre. Donc, Victor, je te laisse démarrer, mise à jour sur Julian Assange.
Ok, merci à tous. Donc, en guise de préambule, je vais préciser avant de commencer que sur la partie cubaine, comme ça fait 2 ans que je suis sur Julian Assange exclusivement, je suis peut-être un peu rouillé au niveau de certaines précisions. Le reste est là, mais je vais peut-être être, à moins que ça me revienne au fur et à mesure que je parle. Hein. Donc, si je ne suis pas précis sur des dates, vous m'en voudrez pas. Je pense d'ailleurs pas que je pense pas avoir envie de vous parler de Cuba en termes purement factuels, en déroulant une sorte de chronologie. C'est pas ce qui m'intéresse le plus par rapport à ça. Bon. Pour revenir sur Assange, alors je ne sais pas où j'ai laissé la conversation avec vous la dernière fois. Il y avait le procès qui s'est déroulé septembre, qui a duré une semaine environ. Pour ceux qui ont réussi à le suivre par des rapports, des comptes rendus que faisait notamment Craig Murray, l'ancien diplomate britannique qui assistait physiquement, qui était l'une des rares personnes qui assistait physiquement au procès. Il était clair pour tous ceux qui assistaient au procès que les Américains étaient en train de se faire bousculer sérieusement par la défense. C'est-à-dire que toutes leurs affirmations tombant les unes après les autres, les témoins qui venaient à la barre, comme le journaliste de Der Spiegel, comme... un ancien détenu kidnappé par la CIA, comme des anciens directeurs des Supermax, comme actuels responsables de sites Internet qui avaient publié les documents avant WikiLeaks qu'on reprochait. Enfin bref, toutes les accusations des Américains les uns après les autres tombaient. Et l'ambiance était un petit peu tendue pour les Américains, au tel point que l'avocat, un des avocats de la partie américaine, à un moment donné, s'est mis à engueuler un de ses témoins en oubliant que c'était son propre témoin qui était là parce qu'il ne donnait pas les réponses qu'il aurait aimé entendre. Bref, bon, enfin, le procès lui-même a quand même été ponctué par des irrégularités, comme par exemple que les Américains avaient 4 heures pour cuisiner les témoins et que la défense n'avait qu'une demi-heure. On a vu que une des audiences avait été piratée. C'est-à-dire que la liaison audio avait été hackée, on a vu un discours de Trump s'afficher au lieu du témoin qui devait parler. On a vu les Américains changer de fusil d'épaule dans les accusations au dernier moment, en balançant 300 pages à Daniel Ellsberg qui devait témoigner à 6 h du matin, il a reçu 300 pages à 3 h du matin. Bref, toutes les tentatives pour déstabiliser les témoins et changer de braquets ou d'accusations ont à peu près lamentablement échoué dans la mesure où les témoins, tous ceux qui étaient là, étaient de très grande envergure. Bref, le jugement a été annoncé, programmé pour le 4 janvier, et littéralement de la bouche de la juge après les élections américaines, ce qui sous-entendait encore une fois qu'il s'agit bien d'un procès politique. Le 4 janvier à 10h du matin, lorsqu'elle a commencé, il y avait encore des journalistes présents qui tweetaient en direct lorsqu'elle a prononcé son jugement et tout s'annonçait très négativement dans la mesure où point par point, elle était en train de donner raison aux Américains. Donc au fur et à mesure que les tweets arrivaient, on avait les épaules comme ça qui s'affaissaient. Remarque, la justice britannique au jour d'aujourd'hui, où je vous parle, les appels sont en cours, a criminalisé le métier de journaliste d'investigation. C'est un des aspects quand même de ce procès, que tous les témoins et les journalistes d'investigation qui sont venus, globalement, ils ont tous dit, ce qu'a fait Julian Assange et Wikileaks, c'est rien de plus, rien de moins que ce que nous faisons tous les jours. Or, la juge a considéré qu'il s'agissait bien d'une activité illégale. Mais, aux surprises, coup de théâtre, dernière phrase, à la dernière minute, elle dit que Julian Assange ne peut pas être extradé du fait de son état de santé. En gros, ça c'est moi qui l'interprète, on l'a tellement démoli qu'on ne peut plus l'envoyer sérieusement dans une prison supermax aux États-Unis. Sachant qu'une prison supermax aux États-Unis, c'est quelque chose, c'est un enfer sur Terre. Dixit, un ancien directeur qui était présent au procès d'une de ces supermax, non seulement dans une supermax, mais sous des mesures administratives spéciales qui sont un goulag à l'intérieur du goulag.
Tu es en train de nous dire donc là, c'est qu'il se préoccupe malgré tout de l'état de santé de Julian Assange.
À cause de l'état de santé de Julian Assange, qui a été pronostiqué par plusieurs psychiatres comme étant un autiste. Ça, on l'a découvert pendant le procès, légèrement autiste. Tendance suicidaire. Tout ça, c'est la conséquence de la torture psychologique qui avait déjà été constatée, évidemment, par les rapporteurs de l'ONU accompagnés de médecins un an auparavant. La situation. Et la dernière phrase de son jugement, c'est littéralement « et j'ordonne la libération de Julian Assange ». Le 4 janvier. Il est toujours en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas été libéré. La juge a attendu deux jours pour que les Américains annoncent leur intention de faire appel. Et que la défense a demandé sa libération sous caution, qu'elle a aussitôt refusée. Donc il n'a pas été extradé dans une prison de haute sécurité américaine à cause de sa santé, mais il a été remis dans une prison de haute sécurité britannique malgré sa santé. C'est la situation ubuesque, comme toute cette affaire, dans laquelle on se trouve maintenant. Alors on a attendu, on ne savait pas trop si les Américains, ils disaient qu'ils allaient faire appel. Ils ont fait appel à la dernière minute, ils ont même demandé une prolongation pour pouvoir compléter leur appel, comme s'ils n'avaient pas eu le temps et comme si, etc. Ils ont effectivement fait appel, la défense a fait appel aussi, et on attend maintenant que la haute cour britannique accepte ou non l'appel, parce que c'est ça un petit peu l'ambiguïté, c'est qu'elle peut tout à fait refuser l'appel et dire non, c'est bon, on arrête là, ou d'accord, j'accepte l'appel, j'accepte que cette affaire aille en appel. Donc il y a un appel, les Américains font appel sur le jugement, évidemment, il est non extradable. La défense fait appel sur tout le procès, c'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de dire que Julien... C'était une hésitation d'ailleurs de la défense au point de vue stratégique, ne savait pas trop s'il fallait juste contester, enfin elle ne pouvait pas contester le non-extradition puisque c'est un bon point, mais elle disait qu'elle ne pouvait pas laisser l'affaire comme ça, elle ne pouvait pas laisser toute la partie qui est derrière la pointe de cet iceberg qui est la criminalisation du journalisme d'investigation. Mais en faisant cela, ça veut dire qu'il faut recommencer le procès depuis le début. Ça veut dire que Julian Assange risque d'être encore, si on lui refuse systématiquement la libération sous caution ou simplement un emprisonnement dans une prison normale, il n'a rien à faire dans une prison de sécurité, et bien ça risque de repousser l'affaire pendant encore 2 ans et avec la question est-ce qu'il survivra physiquement à ce traitement. Les analystes, les gens qui ont analysé ça, notamment Nils Melzer, ils sont arrivés à la conclusion qu'en fait, la décision de la justice américaine n'est pas très, 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 très bonne, dans la mesure où, si on regarde les choses de près, ça veut dire quoi? Ça veut dire, un, Julian Assange est actuellement je prends la version la plus favorable, la plus optimiste, il est actuellement protégé d'une extradition vers les États-Unis, du fait de sa santé, de la décision du juge. Mais ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que s'il sort de l'Angleterre, il n'est plus protégé par cette décision et les Américains pourraient décider de reporter plainte, redemander une extradition là où Julian Assange serait, en Australie ou ailleurs. Et que 2, si d'aventure il se portait mieux, en reprenant par exemple ses activités avec Wikileaks, les Américains pourraient dire, ah, maintenant que sa santé est meilleure, maintenant vous pouvez l'extrader. Et on va recommencer. En fait, tout ça selon la stratégie établie par la société Stratford, qui était de lui pourrir la vie, de le poursuivre jusqu'au bout du monde. Et ça a l'air de bien se passer comme ça. Pas spécialement pressé, plus pressé que ça, de l'extrader, à mon avis. Là où il est réduit au silence, il ne peut pas s'exprimer. Ça fait 2 ans qu'on ne l'a pas entendu de vive voix. Le journaliste le plus primé du XXIe siècle. Donc je crois que la situation actuelle leur convient parfaitement. Et s'il devait mourir par accident, par Covid ou Dieu sait quoi, encore mieux. Que de toute façon, tant que les choses continuent comme ça, ils pourront faire traîner la situation pendant si longtemps qu'à un moment donné, je crois qu'il ne sera plus l'homme qu'on a connu qu'il était et que voilà, ils le détruiront, puis voilà, basta. Donc on est en attente. Les estimations les plus courantes qui circulent, quand est-ce que la haute cour prendra sa décision, les dates qui sont avancées, c'est début juillet. Voilà où on en est. Entre-temps, le pape a envoyé une lettre à Assange, mais on ne sait pas ce qu'il y a eu dedans. Les gens disent le pape soutient Julian Assange, il ne l'a jamais officiellement soutenu. Il y a des fois dans ma tête, je me dis, il lui a peut-être envoyé une lettre en disant « je te pardonne mon fils, bénédiction, urbi et torbi », enfin, j'en sais rien, moi, ce qu'il y avait dans cette lettre. Pour l'instant, on ne sait pas, mais ça n'a pas fait plus la une des journaux non plus que le fait que le pape ait écrit à Julian Assange. La solidarité continue, elle se renforce tout doucement. Il y a de plus en plus de députés australiens qui commencent à. Toujours pas suffisant du point de vue médiatique, c'est à peu près statu quo. On n'a rien pu faire bouger les lignes du point de vue média, grand média. Mais du côté américain, là, on a vu quand même quelques articles où les grands journaux commencent à prendre position et se sont exprimés contre son extradition. Apparemment, ils sont un petit peu conscients ou inquiets de ce qui pourrait se passer. Mais de mon point de vue,
parmi les hommes politiques australiens, notamment dont tu parles, eux, c'est quoi concrètement? Alors, c'est bien de dire effectivement que Julian Assange n'est pas un criminel, mais pour contrer les États-Unis, finalement, qu'est-ce qu'ils remettent en question? Est-ce que c'est cette notion d'extradition qui sous-entend qu'on a commis une faute dans le pays en question, qui vient nous chercher? C'est quoi en fait leur axe de défense contre les États-Unis?
Leur ligne de défense, et il y en a plusieurs, les plus acharnés, les plus conscients de l'affaire, disent ce que je dis moi et ce qu'on dit tous, c'est que c'est un Australien, il n'est pas sous la juridiction américaine, c'est quoi ces lois extraterritoriales? Comment ça se fait que l'Australie ne vient pas en aide à un de ses citoyens en faisant des pressions politiques d'un quelqu'un qui n'a commis aucun crime violent? Bon, il y en a d'autres derrière qui sont plus faibles dans leur soutien, mais qui disent quand même que c'est une atteinte à la liberté de la presse, quoi. Mais tout ça se passe dans une ambiance qui n'est pas très favorable à la liberté de la presse, soit dit en passant, parce que tout le monde en parle, les hommes politiques, mais au fur et à mesure qu'ils en parlent, notamment en Australie, il y a des lois qui semblent se diriger vers effectivement un bâillonnement de plus en plus sévère de la presse, notamment de la journalisme d'investigation, sur tout ce qui porte sur des questions de sécurité d'État, là où justement Wikileaks excellait. Donc en gros, le vent n'est pas favorable à Wikileaks. Cela dit, en Australie, apparemment, les sondages sont tout à fait favorables à Julian Assange. Il y a des élections qui s'approchent et le parti travailliste aurait voté à l'unanimité une motion de soutien à Julian Assange. Alors pourquoi est-ce que je mets au conditionnel le « aurait » Parce que d'après des Australiens qui en ont parlé, cette motion de soutien se trouvait à l'intérieur d'une déclaration de stratégie de politique générale et n'était pas spécifiquement adressée à Julian Assange. Donc il y avait une phrase sur Julian Assange au milieu. Est-ce que ça veut dire que le parti travailliste australien qui est dans l'opposition actuellement est tout à fait pour Julian Assange ou est-ce qu'ils ont voté tout le texte dans son ensemble en laissant la phrase à l'intérieur? C'est pas tout à fait la même chose.
Donc, Brassens qui pose une question qui demande finalement, après toutes ces fausses accusations réfutées, quels sont les chefs d'accusation contre Julian Assange actuellement?
La principale, c'est qu'il a mis des vies en danger parce que c'est la seule qu'ils ont réussi à caser, qui s'éloigne de l'aspect politique, puisque une extradition de l'Angleterre, de la Grande-Bretagne vers les États-Unis. Pour des raisons politiques, non. Il y a deux raisons, santé ou politique. L'espionnage, par exemple, c'est typiquement une activité politique. Par définition, c'est une activité politique. Ça paraît paradoxal comme ça. Et en fait, non. C'est-à-dire que si on l'accuse d'espionnage, espionnage étant un acte politique, le procès est politique, donc non, on ne peut pas l'extrader. Par contre, mettre des vies en danger, ah, ça, c'est pas pareil. Mais même tout ça, tout est tombé, en fait, pendant le procès. J'avoue personnellement que je ne sais pas très bien, parce qu'ils avaient émis les fameuses 13 chefs d'inculpation qu'ils avaient lancés tout au début, la première fois en janvier, je crois que c'était. Ils les ont remplacés in extremis quelques jours avant le procès et hors délai. Ils les ont remplacés des chefs d'accusation d'espionnage par des activités de hacking et de tentative de pénétration de serveurs protégés. Ah là, ça devient plutôt une activité criminelle. Mais on a vu que pendant le procès, ils ont laissé tomber tout ça. Et lors de leur plaidoirie, ils ont parlé que de la mise en danger de la vie des gens soi-disant mis en danger par les révélations et les publications de Wikileaks. C'est pour ça que, personnellement, je dis qu'ils ont changé 3 fois de fusil d'épaule. En tout cas, la juge a donné raison sur tout. C'est-à-dire que oui, il a fait du hacking, oui, il a fait, alors qu'il y a eu quasiment des preuves qu'il n'a jamais rien hacké du tout, que oui, il a eu des tentatives de pénétration, ce qui est de l'ordinateur, ce qui est illégal. Il faut relire le compte-rendu de son jugement, je ne me souviens plus point par point. Tout ce que je me souviens, c'est qu'elle donnait raison aux Américains sur toute la ligne et qu'à la fin, elle sort cette phrase bizarre, en une phrase laconique, eu égard à son état de santé, il ne peut pas être extradé. Je répète ici, je l'ai peut-être déjà dit ailleurs, ce n'est pas... Je pense que la juge n'a pas eu une position aussi humaniste qu'elle paraît là-dedans. Pourquoi ? À part le fait que peut-être qu'elle faisait partie d'une sorte de complot pour faire durer cette affaire, parce qu'elle l'extradait, c'était déjà mettre trop l'affaire en lumière et attirer trop l'attention de la presse américaine. Mais il faut savoir qu'une affaire très similaire qui s'était déroulée 2 ans auparavant d'un certain Lori Love, qui lui avait été accusé de hacker les ordinateurs américains, a gagné son procès en appel parce que lui, il a été diagnostiqué autiste justement. Et que la haute cour a estimé que l'autisme n'étant pas reconnu comme une maladie apparemment dans le système pénitentiaire américain, il n'aurait pas les soins nécessaires. Donc, je comprends, moi, que la juge savait, eu égard au constat que Julian Assange était autiste, savait que sur ce point-là, son jugement serait cassé, puisqu'il avait déjà été cassé, et qu'elle a simplement jugé de façon intelligente pour elle, pour ne pas avoir un de ses jugements cassé en appel, puisqu'elle savait que donc la haute cour annulerait le probablement, en tout cas, puisqu'il s'agit d'un cas très très similaire à celui de Lori Love, qui avait été jugé 2 ans auparavant. Voilà. Donc on attend juillet, je crois que c'est 2 juillet. Quelqu'un a parlé du 2 juillet, je ne me souviens plus. Donc est-ce que ça repart comme en 14? Est-ce que les Américains vont venir en appel en disant mais finalement on ne va pas l'envoyer dans un prison de sécurité maximum? Ah oui, c'était ça aussi une des raisons pour laquelle la défense a fait un appel. Parce que si les Américains arrivaient en appel en disant simplement, vous savez quoi, finalement, on ne va pas le mettre dans une prison de haute sécurité, on va le mettre dans un country club où il sera soigné, bichonné, chouchouté, il aura tous les médecins possibles, imaginables, donc vous n'avez plus de raison de refuser l'appel. Ce qui est une possibilité. La haute cour aurait pu dire, bah, dans ce cas-là, d'accord. Alors. Donc, non.
Pour l'instant,
la partie n'est pas gagnée. Hein.
On a Princeps091, je ne sais pas si je prononce bien le pseudo, qui demande donc, malgré l'appel, cette décision de la juge concernant la criminalisation de l'activité de journalisme d'investigation fait-elle partie de la jurisprudence? Si oui, quelle serait la portée de cette jurisprudence?
Si la haute cour la confirme, elle fera partie de la jurisprudence, et même pire que ça, à cause du Commonwealth. Où les systèmes judiciaires ne sont pas interliés, mais très influençables les unes des autres, puisqu'elles ont tendance à s'aligner, ça risque d'avoir un effet boule de neige à travers les pays anglo-saxons comme l'Australie, peut-être le Canada, tous les pays qui font partie du Commonwealth, la Nouvelle-Zélande. Donc, pour l'instant, elle ne fait pas jurisprudence dans la mesure où elle est en appel, mais elle risque de le faire, ouais. Et c'est en tout cas, maintenant, Bon, je peux dire ce que je veux, mais je vais rapporter les propos des journalistes d'investigation qui ont suivi l'affaire. Pour eux, c'est un coup très dur porté au journalisme d'investigation. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Donc, ils savent probablement de quoi ils parlent. Donc, dans toute discrétion, là, on vient de porter un coup quasi mortel au journalisme d'investigation. Ce que eux appellent le journalisme d'investigation, hein, parce qu'en France, on peut appeler que journaliste d'investigation. Ils appellent un journaliste qui se balade à caméra cachée dans les rayons surgelés de Carrefour et qui trouve des étiquettes mal datées. Ils appellent ça du journalisme d'investigation. Bon, mettons ça de côté, on va parler du vrai journalisme d'investigation. Celui qui publie des choses que des très puissants et des États ne veulent pas voir publiées. Ça, c'est le journalisme d'investigation. Donc, ce journalisme-là, bah ouais. Ce journalisme-là fait appel forcément à des lanceurs d'alerte, fait forcément appel à des documents classifiés, puisque d'une manière générale, les pouvoirs, quand ils font des choses illégales, ils n'ont pas tendance à en faire la pub, donc c'est généralement classifié. Donc on est dans un piège sémantique quasiment, hein, voilà. Donc parce que je l'ai classifié, le révéler devient un crime. Et oublions le crime. C'est-à-dire que le fait de le révéler est plus grave apparemment que le crime lui-même. Et la juge, d'ailleurs, puisqu'elle est en train de juger sur une extradition, elle devait juger aussi si, parce que c'est là où le bât blesse, c'est que non seulement elle reconnaît que les Américains ont raison, mais elle reconnaît que si Julian Assange avait fait la même chose vis-à-vis des Grandes-Bretagnes, il aurait été coupable d'après les lois britanniques aussi. Donc l'effet de extraterritorialité, en fait, il y a un double bang là. Il y a le bang et l'écho. Il est coupable aux États-Unis et d'un seul coup, il devient coupable aussi en Grande-Bretagne. Parce que si ses activités n'avaient pas été reconnues coupables selon la loi britannique, la question de l'extradition ne se serait probablement pas posée. Donc en fait, elle dit que les Américains ont raison et la Grande-Bretagne pense la même chose. Ah, est-ce que c'est vrai? Il y a un appel, on verra si la Haute Cour est d'accord.
Il y a Metec qui demande, WikiLeaks est-il mort depuis qu'Assange a quitté l'ambassade d'Équateur?
Wikileaks est-il mort? Non, Wikileaks continue de fonctionner. Ils ont fait une très belle fuite récemment. Bon, le rythme a nettement baissé, ça c'est clair. Wikileaks le dit d'ailleurs, qu'on sent depuis l'affaire Assange un ralentissement net des soumissions des documents qui leur sont soumis. Mais Wikileaks a fait un joli coup récemment dont la presse n'a pas parlé, parce que maintenant la deuxième stratégie pour étouffer et faire oublier Wikileaks, c'est tout simplement de ne plus parler de leur fuite. Donc ils en ont fait une récemment. Ça concernait l'Office pour le contrôle de l'utilisation des armes chimiques, là, et l'histoire des armes chimiques en Syrie. On avait eu un rapport qui est officiel de l'organisation qui accusait le régime Assad pour un incident particulier, je ne parle pas de tous les incidents, d'avoir eu recours à des armes chimiques alors qu'il y a des inspecteurs qui ont participé à l'enquête sur place, qui étaient sur place, qui se sont élevés et qui ont publiquement, c'est même pas un secret, ah, publiquement, est-ce qu'on connaît son nom? Je ne sais pas si on l'a connu après ou sur le coup, donc qui ont révélé à Wikileaks qu'en fait, le rapport de l'organisme n'était pas aligné aux conclusions de leur enquête. Donc, mini-scandale, machin truc, mais vite étouffé. Ils ont été insistants, ça a fait la tournée des médias alternatifs qui s'intéressent à ce genre de questions, mais la grande presse n'a pas relevé ça plus que ça. Donc en fait, on a affaire à des lanceurs d'alerte à l'intérieur de l'organisme qui étaient sur le terrain et qui témoignent que le rapport ne dit pas du tout, ne reflète pas du tout leurs conclusions. Bon, c'est une jolie fuite qui est récemment. Je suis pas au courant d'autres. Je suis pas au courant. Voilà, OPC cover-up. Oui, Aaron Maté. Très bien.
Alors, il y a
Gray
deux
Zone,
autres questions
en ce moment,
de
Gray Zone,
Metech.
c'est probablement le site à suivre. C'est les gars qui méritent d'être soutenus, d'être interviewés par Thinkerview. De suivre, c'est vraiment, à mon avis, à mon humble avis, les meilleurs journalistes du moment sont là.
Alors, on a deux dernières
Alors,
questions et après, je
deux
propose qu'on
dernières
passe à
questions.
Cuba, qui est le sujet principal de ce soir. Donc, Metech, où en sommes-nous du procès de la société de sécurité qui a surveillé l'ambassade d'Équateur durant le séjour d'Assange? Et ce procès peut-il influencer le procès d'extradition?
Ce procès aurait dû influencer l'extradition dans la mesure où ce procès porte sur, devinez quoi, la violation de la secret de, entre avocat et client à l'ambassade, la violation du secret professionnel entre ses médecins, le piratage et l'espionnage des journalistes qui étaient présents. Mais la juge Barretzer a dit que non, que ça n'avait rien à voir avec l'affaire Assange, parce que ça se passait en Espagne, etc. Donc le procès est en cours. L'accusé, le principal accusé a été arrêté récemment alors qu'apparemment il tentait de fuir l'Espagne, c'est-à-dire que le patron de la boîte, il a été réarrêté à la frontière avec le Portugal. Il a été remis en liberté. Et les témoins, les principaux témoins, il y a Craig Murray, celui qui faisait les rapports là, dont je parlais tout à l'heure à l'intérieur, l'intérieur du procès du tribunal, qui est l'ancien diplomate anglais. Lui-même a eu des histoires, des ennuis avec la justice, a été condamné à 8 mois de prison, idem pour des comptes rendus sur le cours d'un procès où il en aurait trop dit et qu'il aurait révélé l'identité des personnes, alors que c'était un procès de style portant sur des harcèlements sexuels où l'identité des intéressés devait être cachée. Il aurait, de par des indices, révélé les identités. Alors qu'en fait, et je l'ai suivi en direct cette affaire, il n'a fait que citer des éléments qui avaient déjà été publiés dans la presse. Donc on pense qu'il y a une sorte de répression qui s'abat sur Craig Murray, celui donc qui a fait les comptes rendus du procès d'Assange. Et pourquoi j'en parle spécifiquement maintenant, c'est parce qu'il devait aller la semaine prochaine témoigner au procès d'Assange en Madrid, à Madrid, et que la justice écossaise, en l'occurrence, puisque ça se passe en Écosse, la juge lui a interdit de sortir du territoire. Donc il ne pourra pas aller témoigner au procès contre UC Global en Espagne, à cause de cette autre affaire, où il vient d'être condamné à 8 mois de prison pour avoir simplement cité des journaux. Donc voilà, est-ce qu'il y a un rapport direct avec Assange ou pas? Est-ce qu'on est en train de lui faire payer ça? Je ne sais pas. Beaucoup de gens le pensent, évidemment, parce que ça tombe vraiment à pic. Et son procès a été beaucoup plus rondement mené, puisque en quelques mois, ça a été réglé. Mais il y a quand même pas mal d'éléments qui font penser au procès Assange, quoi. Comment est-ce qu'on peut accuser quelqu'un d'avoir simplement cité des journaux? Eux ne sont pas poursuivis pour le même délit. Voilà.
Ouais, obscur. Je propose qu'on passe à la deuxième partie, Cuba.
S'il y en a qui veulent revenir ensuite, dans le moment où on commence à poser les questions, de revenir sur Assange, ouais. Mais bon, j'ai à peu près dit tout ce que, honnêtement, j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas s'il y a des copains de la solidarité qui sont connectés, s'ils ont quelque chose à dire que j'aurais oublié. Mais en gros, c'est ça.
C'est quelqu'un.
Le reste, c'est juste de la supputation, etc.
Alors. Des experts qui cachent l'information. Ouais, c'est compliqué d'avoir autre chose que des supputations.
Vas-y, je vais vous parler d'autre chose. Oui, tu voulais dire quelque chose?
Je sais pas, quelqu'un venait de prendre la parole là. C'était une personne qui fait partie de la solidarité avec toi qui voulait rajouter un truc. J'ai pas vu le pseudo.
Je connais pas.
Écoute, enchaîne sur Cuba et puis au pire.
Bon, alors Cuba. Eh ben oui, t'as eu la bonne phrase parce qu'en fait, c'était une des phrases que j'avais préparées. C'est. J'avais là pour habitude de commencer les interventions sur Assange en disant si vous n'avez pas suivi l'affaire de près, tout ce que vous croyez savoir est probablement faux. Eh ben, je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que cette phrase pourrait pas mal s'appliquer aussi à Cuba. On va voir, je vais essayer de ne pas être trop chargé au point de vue information, pas factuelle, mais comment dire, technique, pour brosser un tableau, pour peut-être ensuite passer à des questions-réponses. Je pourrais commencer par raconter qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais à Cuba, j'ai assisté à un événement pour la première fois de ma vie. C'est un événement qui se passe régulièrement. Et quand je suis rentré, je suis tombé sur un article du l'hebdomadaire Le Point, un article signé AFP, d'un journaliste qui relatait l'événement. Donc j'ai commencé naturellement à lire l'article. Et à la fin, le journaliste, ou la journaliste, je dis là parce que c'était signé AFP, mais je crois savoir qui c'était parce qu'elle est connue pour ça. Au dernier paragraphe, elle dit quelque chose et on se rend compte qu'en fait, elle n'était pas à l'événement. Elle a dit, elle a écrit quelque chose qui paraissait très probablement logique dans sa tête, très certainement logique dans la tête de tous ceux qui étaient en train de lire l'article et qui connaissaient Cuba comme la plupart des gens. Oui, oui, c'est comme ça. Et il y avait des dizaines de Français présents sur place. Tu te rends compte que d'un seul coup, elle était en train de broder et que son article était un fake. Une pigiste qui devait se faire un petit article, qui ne s'est pas déplacé réellement, qui a écrit n'importe quoi, à mon avis. Voilà où on en est rendu.
Dans quel média, il y a eu cet article ?
C'était publié dans Le Point, mais c'était un article signé AFP. AFP, d'ailleurs, nous a habitués aux fake. Ils ont un AFP factuel, mais apparemment, il ne s'applique pas en interne. Je me souviens encore d'articles ou de communiqués de AFP qui parlaient depuis la levée du blocus des États-Unis contre Cuba. Bon, il a été levé quand ça ? Tu peux me le dire ? Bref, on croit savoir la source interne de l'AFP, c'est une nana, autant le dire tout de suite, je crois que c'est la seule journaliste à Cuba qui est étranger qui a été expulsée. Trop, parce que trop, c'était trop. Alors les détails, Brassens, bah oui, c'était le compte-rendu du 1er mai de 2017. Donc voilà, elle racontait le 1er mai sur la place, le 1er mai à La Havane, j'y étais. Elle raconte la fin de la manifestation en disant une chose qui était absolument faux et qui est impossible d'ailleurs, mais que ça lui paraissait logique. Voilà. Donc si. À ce titre d'ailleurs, vous avez probablement tous lu des articles sur Cuba, au moins une fois, et l'expression leader maximo, quelque chose que vous avez tous probablement à l'oreille. Chez ceux qui connaissent l'Amérique latine et qui connaissent Cuba en particulier, vous savez ce que c'est que ça ? Ça, c'est la preuve, le signe d'un journaliste qui ne sait pas de quoi il parle. Pourquoi ? Parce que cette expression leader maximo, je peux vous assurer, n'est jamais utilisée à Cuba, n'a jamais été utilisée à Cuba, ni dans la presse, ni dans le public, nulle part. C'est un terme qui aurait été inventé par la CIA et qui est utilisé à l'extérieur. Donc comment est-ce qu'un journaliste peut arriver et systématiquement teindre, marquer ses articles par cette expression « leader maximo » et on comprend bien que « leader maximo », ça fait un peu grand timonier, ça fait suprême, leader, machin truc, etc., etc. Alors que c'est un terme qui est inventé de toutes pièces et qui n'est jamais utilisé à Cuba. Les Cubains se réfèrent à M. Fidel Castro, se référaient à M. Fidel Castro selon la formalité, le formalisme du moment et selon si c'est un officiel ou pas, il y avait El Comandante, le commandant, ce qui était son grade durant la guérilla. Il n'y avait pas de grade de général dans l'armée révolutionnaire cubaine. Plus prosaïquement, dans le public, dans la population, c'est Fidel. Quand il n'y a pas d'autre forme de précision, le prénom Fidel désigne forcément Fidel Castro. Et de poisson assez affectif, on l'appelait aussi El Caballo, le cheval. Ça veut dire le mec, le costaud, le mec qui a de l'endurance. Il était connu pour se coucher à 4h du matin, à se lever à 8h. Enfin, il pouvait appeler à 2h du matin, il pouvait convoquer un ministre à 2h du matin pour lui parler des trucs, etc. Donc, leader maximo, c'est la... Si vous avez déjà lu un article avec la phrase leader maximo, c'est qu'on vous a raconté n'importe quoi. Voilà, c'est ma... Y a-t-il des parallèles à tracer ? Bien sûr qu'il y a des parallèles à tracer. Il y a des parallèles à tracer entre Cuba et le Venezuela, comme il y a des parallèles à tracer entre tous les pays qui ne sont pas, ou qui sont plutôt dans le viseur de l'impérialisme d'une manière générale. Ce qui, à moi, me fait poser des questions. Tous les autres pays que je ne connais pas, est-ce que c'est la même chose ? Probablement. D'où ma méfiance lorsqu'on me raconte quoi que ce soit sur un de ces pays maudits, état voyou ou autre. Comme vous le savez probablement, j'ai une livre qui vient de sortir là, qui s'appelle Cuba sous embargo, parole cubaine contre le blocus. Constatez que j'ai utilisé les deux termes dans le titre. De quoi on parle ? Et pourquoi est-ce que je me suis senti de faire un livre finalement pour parler de quoi exactement ? Parce qu'il a fallu que quelqu'un fasse ce livre pour parler de, finalement, de l'éléphant qui est dans la pièce. L'embargo ou blocus, ce n'est pas quelque chose d'anodin à Cuba. C'est omniprésent, c'est présent dans tous les discours, c'est présent dans toutes les interventions internationales des dirigeants cubains. Et pourtant, c'est un sujet sur lequel aucun, et je vous mets au défi, aucun journaliste ne s'étend. À peine la moitié, je dirais, ça c'est pifométrique, citerait Citron dans leur reportage, entre guillemets, l'embargo. Personne ne vous expliquera de quoi il s'agit. Or, je me suis dit, bon, il s'agit du plus long embargo de l'histoire de l'humanité. Il s'agit plus que d'un embargo, une tentative de blocus. Or, les blocus en droit international constituent un crime humanitaire. Par conséquent, nous avons affaire à une tentative de crime humanitaire le plus long de l'histoire qui dure depuis 60 ans. C'est l'éléphant qui est dans le salon et toute, pour moi, analyse, critique, jugement porté sur Cuba en évacuant cette partie-là constitue une décontextualisation telle que la critique et l'analyse est de facto nulle. C'est trop. J'avais fait un rapport, j'avais fait un rapprochement récemment de façon ironique en disant, en imaginant, j'ai écrit un article comme ça un peu rigolote si vous voulez, en disant que qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un devait faire un article sur la France de 2020 en écrivant bien sûr des choses vraies, mais en omettant le mot Covid. Ben, je me suis amusé à ça, j'ai raconté que les gens étaient soumis à un couvre-feu, que la police patrouillait dans la rue, que les écoles étaient fermées, que, etc., etc. Donc réellement, franchement, il faut avoir un esprit, je ne sais pas comment l'appeler, aveugle, obtus, pour ne pas parler de la question la plus importante à Cuba du moment. Bien. À tel point que il y a un phénomène qui devrait mettre la puce à l'oreille à tout le monde. Ça se passe aux Nations Unies depuis, je vais dire 25 ans, parce que j'hésite entre 20 et 30, donc je vais taper dans le milieu. Depuis 25 ans, au mois de vers fin octobre, début novembre, selon, il y a un vote qui est soumis à l'Assemblée générale de l'ONU, c'est-à-dire l'Assemblée générale de tous les membres, tous les pays membres de l'ONU. Et la question... La motion est présentée par Cuba, est présentée par Cuba au mois de juin précédent, donc là, ils sont sur le point de le faire, et le vote a lieu au mois d'octobre-novembre. Et cette motion est la suivante. Elle demande à l'Assemblée générale des Nations Unies de condamner l'embargo des États-Unis contre Cuba. Lorsque cette motion a été présentée la première fois, donc il y a 25 ans, en gros, les voix s'étaient partagées, il y a à peu près 200 pays membres, entre 50 pour, c'est-à-dire pour la levée, 50 contre, c'est-à-dire contre la levée, et le reste, indécis ou abstention. Et puis les années passant, le cas cubain devenant de plus en plus omniprésente de par les lois extraterritoriales dont on va parler et qui paradoxalement touchent à l'affaire Assange indirectement. Eh bien, les dernières années, on a vu la progression des votes complètement basculer et on est arrivé ces 3, 4, 5 dernières années à une totalité, à une unanimité totale, moins de voix, pas d'abstention, la terre entière. Tous les régimes de la planète, y compris les alliés des États-Unis et les plus viscéralement anticommunistes de la planète, votent en faveur de la levée du blocus des États-Unis contre Cuba. Les deux seuls pays qui votent contre cette levée sont les États-Unis eux-mêmes, bien sûr, et tout le long, depuis 25 ans, Israël. Israël, qui est contre le boycott, qui veut criminaliser le boycott, vote, par contre, un blocus criminel, crime contre l'humanité. C'est un argument que j'apporte aux partisans de BDS, qui pourront leur envoyer ça à la figure. Bref, pire que ça, d'ailleurs, je crois qu'il y a 2-3 ans, 2018-2019, lorsque Obama a voulu ou a fait semblant de se requinquer avec Cuba, il a fait une visite, etc. Les États-Unis sont allés jusqu'à s'abstenir sur leur propre embargo. C'est-à-dire que, ouais, je crois qu'il n'y a eu plus qu'Israël qui votait contre, puisque cette année-là, les États-Unis se sont abstenus. C'est assez étrange qu'ils n'avaient pas d'opinion sur leur propre embargo. Bref, mais ils sont revenus. Alors, comment ça commence tout ça ? Parce que le contexte est important dans cette affaire-ci. Et d'ailleurs, ça commence dès le départ. Parce que Cuba est le pays qui a été découvert par Christophe Colomb, si je puis dire, découvert. Et il a débarqué à Cuba. Apparemment, quand il a débarqué sur le continent, c'est à Cuba qu'il a débarqué. Et là, ça a commencé tout de suite à annoncer la couleur. L'éradication de la population locale a été effectuée en 2 ans. 2 ans plus tard, il n'y avait plus d'indigènes. Et non pas par des maladies, mais par de véritables guerres et une répression d'une cruauté que Bartolomé de las Casas raconte dans son livre. C'est un prêtre qui suivait les conquistadors espagnols et qui faisait les comptes rendus dans son livre qui s'appelle en français, je crois, « La conquête des Amériques ». Et c'est là qu'on va importer massivement des esclaves de l'Afrique de l'Ouest pour remplacer le main-d'œuvre. En fait, lorsque la révolution cubaine va arrivé en 1er janvier 1959, et pour faire court, les Cubains, eux, disent « c'est l'aboutissement de 150 ans de lutte ». Il faut s'attarder un petit peu à cette idée, parce que chez les Cubains, la révolution, elle n'a pas duré les 3 ans d'agitation qui ont précédé la chute de Batista, 3 ou 4 ans. Eux, ils sont positionnés dans une perspective historique qui va loin, très loin. 150 ans, ils s'estiment qu'ils sont les héritiers de Atwe, le chefs indiens qui résistaient, qui sont les héritiers de tous les patriotes, nationalistes, appelez-les comme vous voulez, pas forcément de gauche, pas forcément de droite, ça dépendait des époques, mais ils assument et ils se revendiquent de tous ces gens-là, qui les uns après les autres ont tenté d'obtenir la libération de l'île de Cuba, et tous sont au panthéon des héros de la révolution cubaine aujourd'hui. C'est important parce que cette perspective historique va expliquer beaucoup de choses qui vont suivre. Donc Cuba connaît 150 ans de lutte et 4 guerres de libération quand même. Et depuis le milieu du 19e siècle, la fameuse doctrine Monroe qui s'applique, qui est celle des États-Unis, qui s'applique à toute l'Amérique latine, qui en gros déclare que tout ce qui est au sud du Rio Grande, ben, ça appartient aux États-Unis. Le Rio Grande, c'est la rivière qui sépare les États-Unis du Mexique. Et que la politique doit désormais s'appliquer avec marcher sur la pointe des pieds, mais porter un gros bâton à la main. C'est-à-dire que, ouais, on fait semblant d'eux, mais on frappe quand même très dur. Et que l'Amérique latine, c'est l'arrière-cour des États-Unis. À la fin du 19e siècle, et à la fin de la dernière des guerres de libération, entre guillemets, où les Américains se battent avec les Espagnols et les évacuent de l'île de Cuba, ils font rentrer dans la Constitution cubaine des États-Unis l'amendement Platt, PLADT, début 20e siècle, qui accorde le droit d'ingérence des États-Unis à l'intérieur de Cuba, qui octroie aux États-Unis une base militaire, que vous connaissez tous, qui s'appelle Guantanamo, et qui accorde aussi aux États-Unis des concessions d'exploitation du mine de charbon, etc., en échange de l'indépendance de Cuba garantie par l'armée américaine. tous. Donc, nous sommes dans une situation de protectorat qui va continuer pendant un certain temps. Nous sommes là en début du... Donc, en 1901, quelque part par là. Pendant ce temps-là, et ça c'est important, un des points que je vais vous donner qui va expliquer la suite, beaucoup de gens l'oublient, on va parler de José Martí, qui est le héros absolu à Cuba, le personnage incontournable. José Martí est mort vers la fin du 19e siècle, il était à la fois diplomate, écrivain, poète. La Guantanamera, cette chanson que tout le monde connaît, les paroles, c'est un poème de José Martí, mis en musique par quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui avait une haine profonde des États-Unis pour les avoir connus, pour avoir été diplomate dans ce pays, qui est tellement admiré choyé et aimé à Cuba que même l'opposition d'extrême droite à Miami se revendique de José Martí. Leur radio pirate s'appelle Radio Martí, leur télévision illégale s'appelle Télévision Martí. Ils ont même des brigades Martí qui sont censées libérer l'île de José Martí, qui donc, je te répète, avait une haine pour les États-Unis, considérait que c'était un fléau mondial et que l'avenir de l'Amérique latine était dans son unité. L'Amérique latine devait être et devait devenir Nuestra América, notre Amérique, à nous. C'est une formule qu'on croise souvent dans les mouvements de résistance en Amérique latine. Et José Martí, donc, qui est mort fin 19e, a les armes à la main, soit dit en passant. C'est sa statue à lui que vous voyez, si vous voyez, rappeler des images de la place de la Révolution à La Havane, il y a une gigantesque pylône blanche comme ça, et tout au sommet, il y a un gars qui est assis, qui ressemblerait un peu vaguement à Lénine, chauve, avec une barbichette, etc. Et qui a légué plusieurs, évidemment, messages aux générations suivantes, mais il y en a une qui m'a marqué et qui a eu beaucoup d'effet, c'est que son analyse à lui était que le Cuba ne sera indépendant que lorsqu'elle trouvera le moyen d'empêcher les Américains de s'ingérer comme ils l'ont toujours fait dans les affaires intérieures du pays. Cuba, en fait, a toujours été considéré par les États-Unis comme une pomme mûre qui devait tôt ou tard tomber dans l'escarcelle des États américains, comme la Floride l'a fait, comme etc. C'est incompréhensible pour la classe politique dirigeante américaine que Cuba ne fasse pas partie de l'Union. Et donc son conseil sera le suivant. Nous ne pourrons résister à Cuba que lorsque nous aurons un parti unique. Un parti où tous les patriotes nationalistes se retrouveront pour faire front commun contre les États-Unis. On est loin ici de parler de communisme ou de quoi que ce soit, mais on est déjà en train de parler de parti unique. Ceci va expliquer et faciliter très, très, très beaucoup, va faciliter beaucoup ce qui va suivre. Donc l'idée de parti unique est revendiquée par tous ceux qui admirent José Martí, et je peux vous assurer que c'est une très grosse majorité des Cubains. José Martí, si je devais le comparer en France, je dirais que c'est la somme, l'addition de Victor Hugo, plus Émile Zola, plus peut-être deux ou trois autres personnages comme ça. Donc c'est quelqu'un qui est, on l'appelle l'apôtre de la nation, donc le père de la nation, si vous voulez. Donc nous sommes au 19e siècle, les combats, les guérillas, le combat pour se sortir de ce protectorat qui est une sorte de fausse libération de Cuba au début du 19e siècle, du 20e siècle, pardon, 1901, de Platte, 20e, pendant donc 100 ans, ça va continuer. Et il y aura un incident qui se produira en juillet 1953, le 26 juillet 1953, un groupe de personnes, dont un avocat, un fils d'avocat, qui s'appelle Fidel Castro, et un de ses frères, pas son frère, comme s'il avait qu'un, décide d'attaquer une caserne militaire pour renverser ce qu'eux considèrent comme la dictature de Batista. L'attaque sera échouera, minable. Il sera arrêté, Fidel, avec quelques-uns des survivants. Son frère réussira à s'échapper, à se glisser parce qu'il est trop jeune et les soldats le prennent pour un gamin. Enfin, il a l'air trop jeune. Et c'est là que Fidel Castro prononcera ce discours qui sera super important pour la suite. Il prononcera un discours qui est un plaidoyer. En fait, comme il est avocat, il se défend lui-même devant les juges. Il prononce un plaidoyer qui se termine par ces phrases « L'histoire m'absoudra » ou « L'histoire m'acquittera » selon les traductions. Où en gros, il regarde ses juges droit dans les yeux en les envoyant balader, en dénonçant leur corruption, en proposant des lignes politiques alternatives et en leur disant, grosso modo, faites fusillez-moi si vous voulez, de toute façon, l'histoire m'acquittera. Fils de, il ne sera pas fusillé ni torturé, je crois. Il passera quelque temps en prison, mais il sera libéré. Puis envoyé en exil, ou il partira en exil au Mexique. Jusqu'à là, je pense qu'on peut dire que le personnage a réussi à faire la une des journaux, mais n'est pas particulièrement marquant dans le processus qui est en train de suivre. Au Mexique, il rencontrera le fameux médecin Argentin qui vient de finir un grand voyage à travers l'Amérique latine où il découvre la réalité des régimes de l'époque et devient férocement anti-impérialiste sur son chemin. Ernesto Che Guevara qui deviendra le Che. Ils se rencontrent au Mexique et ensemble, ils décident de retourner à Cuba parce que c'est là où les choses se passent et essayer de faire la révolution. En fait, la révolution était déjà en cours de route. C'est un des aspects de l'histoire qui est fausse, à mon avis. Ça fait partie de ces choses si vous n'avez pas étudié. L'idée que des barboudeux seraient descendus de la montagne et auraient libéré le pays. Non. La révolution ou la résistance ou les révoltes étaient déjà en cours dans les grandes villes, dans la capitale, à La Havane. Les grèves, les manifestations, les morts, les tortures. Les camarades qui tombaient et ceux qui reprenaient le flambeau, la révolution était déjà en marche, mais n'arrivait pas à avancer, parce que la répression était forte. On va assister ici à un autre mouvement, c'est-à-dire qu'une autre stratégie, ils vont revenir à 80 du Mexique, avec un bateau qui s'appelle le RAL, il rentre dans l'histoire comme le GLAM, et ils débarqueront à Cuba, seront dénoncés, la plupart seront tués, il restera sur 80 une vingtaine d'hommes qui prennent le maquis, la Sierra Maestra, pour essayer d'appliquer une stratégie de conquête du territoire qui avait été déjà appliquée par d'autres mouvements avant eux. On descend des montagnes sur les villes. Et là, la guérilla va se faire connaître, mais alors, à mon avis, à mon humble avis, ce n'est pas forcément ça qui sera complètement déterminant. Ce qui va se passer, en fait, et ceci nous a été raconté, pourquoi je vous raconte ça, ce n'est pas Victor qui se lance dans des trucs... pour ceux qui le savent, on a réalisé avec Le Grand Soir, en finançant un documentaire, il y a quelques années, qui s'appelle Revolucionario, Révolutionnaire, où on a posé une question simple, on a été voir les anciens survivants de la guérilla, les mecs qui ont fait cette... et on leur a posé la question, racontez-nous comment ça s'est passé. C'est marrant, mais parfois les questions les plus bêtes sont les plus intéressantes, pourvu qu'on pense à les poser aux bonnes questions, aux bonnes personnes. Donc, on a été, et en ce documentaire, il est disponible, vous pouvez le consulter. Il y a une dizaine de gars, des gens qui étaient assis aux côtés littéralement sur les photos de Fidel Castro dans les montagnes, qui te racontent pourquoi ils ont pris les armes, comment ça s'est passé. Parmi ces témoignages, par exemple, il y a des gens qui nous ont dit et nous ont raconté qu'ils étaient déjà en train de faire des attentats à La Havane quand ils entendent parler de cette guérilla dirigée par un mec qui s'appelle Fidel Castro. Tiens, ce nom nous dit quelque chose. Dites, c'est pas le mec qui a prononcé le discours, là, l'histoire Mapsoudra, il y a quelques années, lorsqu'il a été jugé. Ah ouais, c'est lui. Il était bien, ce programme. Hein. Je raconte ça comme ça, pourquoi? Parce que sur un ton un peu badin, pour dire qu'il faut comprendre que, et je crois que c'est une des clés pour la compréhension de ce qui s'est passé à Cuba, c'est que ce n'est pas Fidel qui est venu s'imposer, c'est que ce sont les révolutionnaires de plusieurs tendances diverses, on va dire, mais quand même dans le camp, on va dire patriotique, le mot parfois m'écorche la bouche, mais m'écorche bizarrement pas la bouche quand j'en parle en parlant de Cuba. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Donc, il décide en fait de se rallier derrière lui. C'est-à-dire qu'il décide que c'est lui leur plus petit dénominateur commun. C'est derrière cet homme-là et son programme, c'est ce texte-là qui va nous unifier. Et ça aussi, c'est important parce que Fidel Castro a été... l'élément unificateur de la révolution cubaine à cause de notamment son fameux discours dont la presse cubaine de l'époque en a fait les gorges chaudes en publiant en première page. Donc, il s'est fait connaître parce que la presse cubaine a publié son discours croyant peut-être le ridiculiser. En fait, ils l'ont fait connaître. Donc quand il est revenu avec sa petite armée et qu'ils ont réussi à quand même infliger des pertes, il s'est retrouvé naturellement dans une position où les ceux d'en face avaient déjà décidé qu'il se rallierait derrière lui. C'est important parce que ça explique et ça tue un peu le mythe du mec qui s'est imposé, qui a pris le pouvoir, non, ça ne s'est pas passé comme ça dans la bouche même de ceux qui te racontent l'histoire. Je ne sais pas ce qu'ils racontent dans les bouquins d'histoire, mais en tout cas, ça c'est l'histoire que m'ont raconté les acteurs de l'époque. Donc, autant pour l'histoire. Alors, la révolution cubaine, pourquoi est-ce qu'elle a réussi? D'abord, parce que d'une manière générale, les États-Unis avaient l'habitude d'intervenir assez sévèrement sur le continent dès qu'il y avait la moindre velléité de résistance. Un des cas le plus récent du point de vue date, si on se repositionne à l'époque, c'était le renversement de Arbenz au Guatemala, qui était un social-démocrate, mais un social-démocrate non. Il a fait l'objet d'une coup d'État militaire d'une violence inouïe, qui a perduré pendant très 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 longtemps, le Guatemala étant un des pays où le terme de génocide et de crime contre l'humanité s'applique parfaitement. Donc, du point de vue historique, c'est difficile à expliquer. Je pense que Fidel Castro et pas mal de gens ont bien caché leur jeu, si je puis dire. C'est-à-dire que si on relit certains comptes rendus de l'époque, les gars pensaient que Fidel Castro, c'était juste un nationaliste, pas un nationaliste, un caudillo en puissance, qui finirait par se laisser acheter comme les autres se sont fait acheter d'une manière générale, lui-même ayant visité les États-Unis à plusieurs reprises et a été interviewé par des presses américaines. À chaque fois, il disait « I am not a communist ». Donc, ça va, si tu n'es pas un communiste, bon, tu fais ce que tu veux. Il faut comprendre que les gens comme Batista, qui était le dictateur à l'époque, étaient simplement des hommes de main de la CIA et compagnie, parce que Batista, tout président de Cuba qu'il était, il avait quand même un défaut, c'est qu'il était métis. Le président de Cuba de l'époque, Batista, ne pouvait même pas rentrer dans les propres boîtes de nuit de La Havane, de son propre pays. Et on sait que La Havane était appelé à l'époque, son petit nom de la Cuba, c'était le bordel des États-Unis, d'accord ? La mafia détenait tous les casinos, etc. Donc on pensait, grosso modo, qu'il finirait par s'entendre, mais malheureusement non. Dès le mois de mai, c'est-à-dire le 1er janvier, révolution, janvier, février, mars, avril, 4-5 mois plus tard, tac, commence la réforme agraire. La réforme agraire, c'était un mot magique en Amérique latine, c'est généralement en prononçant ce mot-là que tu signes ton arrêt de mort. Et donc les hostilités ont commencé très rapidement. Dès quelques semaines, mois plus tard, Eisenhower signera un décret qui donnera, par exemple, le feu vert à toutes les tentatives de déstabilisation du régime et l'assassinat de ses leaders. Nous sommes donc en début de 1960 et Eisenhower signe un décret qui autorise toutes les opérations, y compris l'assassinat. Il contractera même officiellement, c'est dans l'histoire, la mafia, pour essayer d'organiser des assassinats des frères Castro, des deux frères Castro, et du Che et de Camilo Cienfuegos était déjà mort à l'époque, en fait des dirigeants cubains. Donc on assistera à des tas d'activités hostiles, celui qu'on vient de commémorer il n'y a pas si longtemps avec les copains, c'est en mars 1960, il y a l'explosion d'un navire français dans le port de La Havane, le Coubre, qui portait des armes pour Cuba. Donc le bateau explose, double explosion, quand les secours arrivent, beaucoup de morts. C'est ça qui explique à l'origine la photo du Che, que vous connaissez tous, qui est sur le t-shirt. Il fait cette tête quand vous voyez la photo originale, que des gens disent « on voit les yeux d'un tueur » parce qu'il a un regard sombre. Il a un regard sombre parce qu'il est en train de monter au podium du meeting qui se tiendrait après l'assassinat, l'attentat qui a fait exploser et qui a coûté la vie à 80 Cubains. Et en tant que médecin, il a ce regard sombre. Vous voyez, c'est un photographe cubain qui immortalisera son regard et qui deviendra mondialement connu. Et c'est à ce meeting-là aussi que le fameux slogan apparaîtra, « La patrie ou la mort, patria muerte ». Il est souvent d'ailleurs mal interprété. Il est interprété ici comme « où tu es avec la patrie ou mort », c'est-à-dire c'est confondu avec les phalanges espagnoles. Dans la bouche de Fidel, ça voulait dire que sans patrie, on était tous morts, quoi. C'est la patrie ou la mort. On défend son pays, on se défend, ou l'avenir est sombre, quoi. À mes oreilles et aux oreilles des Cubains, ça ne sonne pas particulièrement comme une sorte de chantage à l'adversaire, si vous voulez. Donc il y aura des bombardements des avions américains. Il y aura tout de suite après cette explosion, il y aura la déclaration, et c'est là que ça devient intéressant. Donc les violences ont commencé, les hostilités ont commencé, les bombardements ont déjà commencé, chose que les gens savent pas, hein, que les actions militaires de l'extérieur avaient déjà commencé. En avril 61, Fidel Castro Oh, surprise, déclarera le caractère socialiste de la révolution. Nous sommes un an et demi après la révolution, parce que les choses n'avaient pas été dites, n'étaient peut-être pas aussi claires que ça. Et suite à ces agressions, donc le caractère socialiste de la révolution est annoncé, en fait, presque comme un défi au gouvernement américain en face. D'ailleurs, Fidel Castro dira quelque chose dans le genre « Ce que les impérialistes ne peuvent nous pardonner, justement, c'est d'avoir fait triompher une révolution socialiste juste sous le nez des États-Unis. » Le lendemain, ce n'est pas un hasard, parce que je pense que les Cubains savaient que le lendemain, ça allait se passer. C'est pour ça que Fidel Castro a devancé la chose en annonçant le caractère socialiste. Le lendemain, on assistera au fameux débarquement de la baie des Cochons. Une tentative d'une armée mercenaire pour établir un territoire à l'intérieur de Cuba, pour être reconnu par les États-Unis, pour ensuite, etc., mais qui a lamentablement échoué. On ne s'attendait pas, les Américains ne s'attendaient pas à une telle résistance de la part des Cubains. Eh bien, puisque toutes les méthodes passées n'ont pas marché, voilà, en février 1962, on va instaurer un embargo économique contre Cuba. Nous sommes donc exactement 2 ans après la révolution, l'embargo va commencer après des tentatives militaires qui n'ont pas réussi. Alors, l'embargo, il faut être clair là-dessus, parce que les documents qui ont été publiés depuis le disent, si je puis dire, l'avouent, si je puis dire. Eu égard, je vais le reformuler parce que je ne le connais pas de tête, mais je suis à peu près sûr, 100% de, très, très, très proche de ce qui est dit dans le communiqué officiel, dans le document officiel. Eu égard à la popularité de la révolution et de Fidel Castro et toute sa bande, il est très peu vraisemblable que nous puissions créer une opposition. Les estimations à l'époque, si je me souviens bien, parlaient de 80% de soutien à la révolution, ce qui est un chiffre phénoménal, hein. Phénoménal parce que, comme je dis toujours, on peut être 80% d'accord pour renverser le dictateur en place, mais une fois renversé, est-ce qu'on est toujours 80% pour être d'accord sur ce qui va se passer ensuite? Et je sais de quoi je parle parce que j'ai assisté à cette problématique lors de la révolution sandiniste qui aura lieu quelques années plus tard en Amérique centrale, où tout le monde était d'accord pour renverser Somoza. Est-ce que tout le monde était d'accord pour le socialisme après? Ça, c'est un débat plus compliqué. Mais Cuba a une histoire particulière, et 80% de la population poussée à, non seulement était d'accord, mais poussée à réclamer la révolution, le socialisme. Donc ça, c'est février, 2 ans après, quelques mois plus tard, la crise des missiles, je ne vais pas revenir là-dessus, vous verrez dans vos histoires, livres d'histoire, et l'embargo commence, mais... Et c'est là que les choses deviennent compliquées, c'est que l'embargo, qui est souvent présenté comme des mesures de représailles économiques, en réalité, il y a toute une panoplie de mesures qui seront prises contre Cuba par les États-Unis que l'on ne mentionnera jamais, que vous n'entendrez jamais mentionner. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais gardez à l'esprit que lorsqu'on parle maintenant de blocus, pourquoi les Cubains utilisent ce terme? Parce que blocus veut aussi dire blocus, mais aussi dire en espagnol blocage. C'est réellement une tentative de bloquer, en fait, parce qu'un blocus, dans l'esprit des gens, c'est des navires autour d'une île qui empêchent, mais c'est réellement une tentative de bloquer la société cubaine, de gripper les rouages de toutes les manières possibles, imaginables. Et ce n'est pas une plaisanterie, je vais donner des exemples qui touchent des amis français très proches et moins proches. Ça vient maintenant jusqu'à la France, ça implique des sociétés françaises. Je vais faire un petit peu balayage des certaines dates que je considère comme importantes. Donc 62, crise des missiles, 64, le Cuban Adjustment Act, je vais revenir dessus. Et une date qui va vous surprendre, 1965, nous sommes 10 années après la révolution, 1er janvier. Création du Parti communiste cubain. Les gens vont me dire, mais attends, Victor, c'est pas déjà communiste Cuba? Ben non, le Parti communiste cubain, c'est-à-dire la raison aujourd'hui pour laquelle on dit qu'il y a eu un embargo contre Cuba, ben figurez-vous que cette raison n'est apparue que 3 ans après l'instauration de l'embargo. Curieux, non? Donc, c'est une des éléments, par exemple, qui sont importants et qui sont un point d'incompréhension souvent de la part des gens. Alors, sa création du Parti communiste cubain est intéressante, parce que maintenant, je reviens à mon José Martí, héros, qui parlait de parti unique. Vous voyez où je veux en venir avec mes gros sabots. Le Parti communiste cubain sera créé en tant que parti unique. Mais il sera créé non pas comme un parti qui s'impose en éliminant tous les autres, mais ce sera un parti qui sera créé par la fusion de tous les partis et de toutes les tendances patriotiques, nationalistes, indépendantistes, appelez ça comme vous voulez, qui se réuniront sous la bannière du Parti communiste cubain, mais imprégnés de cette idée de José Martí qui avait légué que le parti unique pourra les sauver. C'est important ça, parce que j'ai envie de que les gens ne fassent pas trop les parallèles entre Cuba et les pays de l'Est, où le communisme, bon, j'en connais qui vont me taper sur les doigts, des camarades, mais qui n'a pas été importé par des chars cubains. Ici, on est dans un processus qui est des chars soviétiques, pardon, j'ai dit cubains, des chars soviétiques. Donc, ce n'est pas les pays de l'Est, c'est pas la même chose. Ici, c'est un processus qui est profondément local, profondément de l'intérieur, profondément soutenu par la population, et profondément accepté par toutes les tendances. C'est ça qui est important. Je sais, moi, parce que j'ai des amitiés à l'intérieur, qu'il y a des tendances, non pas organisées, parce qu'il est hors de question d'avoir des tendances organisées, mais on retrouve à l'intérieur du Parti communiste cubain, tenez-vous bien les mecs, les trotskistes, les communistes traditionnels, orthodoxes, disons, et même des gens qui se disent social-démocrates. Oui, c'est possible. Ah, ouais, comment est-ce possible? Je ne sais pas. C'est un niveau de conscience politique, c'est des gens qui sont d'un autre niveau, c'est des choses qu'on ne pourrait pas imaginer chez nous, mais c'est comme ça que c'est là-bas. Voilà, c'est comme ça que ça, c'est différent. Le Parti communiste cubain n'a jamais été un parti monolithique. Alors, il est monolithique dans le sens où l'unité est totale, c'est-à-dire que jamais un Cubain, membre de ce parti, ne s'avisera de s'opposer eu égard aux conditions, disons que la question ne se pose pas encore. Bon, on va revenir là-dessus rapidement. Cuba va rentrer dans le Comecon en 72, donc nous sommes là à quoi, 12 ans après la Révolution. C'est important ça. Pourquoi? Parce que c'est là où l'économie cubaine va commencer à marcher normalement, si je puis dire. Donc, Comecon, pour ceux qui ne savent pas, c'était à l'époque de l'Union soviétique, l'équivalent du marché de l'Union européenne, si vous voulez, ou le marché commun, à l'époque on appelait ça. C'était une alliance économique des pays communistes. Donc Cuba rentre dans cette alliance économique. Et c'est là que, en dehors de toute... C'est complètement imprévisible, on va dire. Quoique Hélène Carrère d'Ancoste avait écrit là-dessus. L'Union soviétique s'écroule. Nous sommes en 89, le début de la chute de l'Union soviétique. Cuba se retrouve dans une position très étrange, parce que très similaire à la position où elle s'est retrouvée en 1959. En 1959, lorsque la révolution a lieu, l'économie cubaine était entièrement tournée vers les États-Unis, à tel point d'ailleurs que le prix du sucre cubain était décidé par un vote au Congrès des États-Unis. Et le lendemain de la révolution, très rapidement, les liens se sont coupés de facto, parce que des gens se sont enfuis, ont quitté le pays à cause de la révolution, donc il y a des choses qui se sont arrêtées d'elles-mêmes, ensuite l'embargo est arrivé. En 1989, Cuba, qui venait à peine une dizaine d'années auparavant, intégrer le système économique des pays de l'Est, ben qu'est-ce qui se passe? Replatata, boum, l'économie cubaine s'effondre. Et quand je dis qu'elle s'effondre, je vais donner que deux chiffres. 80% des échanges commerciaux de Cuba disparaissent, et ceci en l'espace de 6 mois. 80%. Et le PIB va tomber de 33%. Alors, ceux qui ne sont pas familiarisés avec ce que veut dire un PIB de 33%, disons que la grande dépression aux États-Unis, ou qu'on voit parfois au cinéma, dont on parle, où on raconte les familles qui parcouraient les rues en haillons et que les fermes abandonnaient la famine, etc., c'était 20%. PIB. Cuba, 33%. C'est l'équivalent d'une sortie d'une guerre. Donc, en à peine une génération plus tard, l'économie cubaine s'effondre à nouveau. Ça aussi, c'est important à comprendre. C'est important à comprendre parce que jusqu'au moment où l'Union soviétique s'effondre, jusqu'en 1989, Cuba avait atteint, alors il y en a qui vont dire oui, grâce à l'aide des pays de l'Union soviétique, ouais, d'accord, mais Cuba avait atteint le plus haut niveau de vie de toute l'Amérique latine. Elle était devenue d'un pays extrêmement divisé entre la capitale, la Havane, qui était une ville de jeu, de richesse, d'opulence et de débauche, et un pays plongé dans la misère, d'une paysannerie qui était tous, quasi la totalité, en dessous du seuil de pauvreté. Et Cuba, en 1989, était devenu un pays très urbanisé, à peu près aussi urbanisé qu'un pays occidental, comme la France, les taux étaient très similaires, où la paysannerie avait disparu. C'est un facteur important pour la crise qui va venir, puisque à l'époque, tout le monde était envoyé à l'école, tout le monde devenait ingénieur, et l'agriculture cubaine avait été tout simplement copiée sur le modèle soviétique, industrialisation à outrance. Et malheureusement, quand tu as une agriculture industrialisée à outrance et que le pétrole vient à manquer, devine ce qui se passe. Eh bien, les tracteurs ne marchent plus, il n'y a plus rien qui marche. Et quand il n'y a plus de pétrole, en fait, on se rend compte qu'il n'y a absolument plus rien. Même l'eau ne coule plus du robinet lorsqu'il n'y a plus de pétrole. Cuba va rentrer dans une période qu'on appellera la période spéciale. 1992, c'est là où le choc, le tremblement de terre, le volcan a explosé, mais le tsunami arrive qu'en 92, c'est-à-dire 3 ans après le début de la chute des pays de l'Est. Cuba, à l'époque, son économie, comme il était dans une économie intégrée, le Comecon, l'économie cubaine, en fait, dans cette économie intégrée, Cuba était le pays qui devait fournir aux pays de l'Est les produits exotiques. Le café, le tabac, le sucre, les fruits, les oranges, les citrons. Et deux pays de l'Est, elle devait importer la viande et tout le reste. Donc elle se retrouve non seulement abandonnée de ses partenaires, mais dans une situation un peu bête, où les produits qu'elle a à vendre n'intéressent pas grand monde, et que d'un seul coup, il lui manque les produits essentiels qui ne sont plus importés. C'est là que j'ai connu d'ailleurs Cuba. Pendant la période spéciale, je peux témoigner, par exemple, que dans ma voiture, ma petite voiture de location, j'étais le rare étranger à l'époque. Cuba ne s'était pas encore vraiment ouvert au tourisme. Je pouvais parcourir l'autoroute centrale qui parcourt l'île d'est en ouest, au centre de l'île, qui fait 1000 km de long, 4 voies, 2 fois 4 voies, construit à l'époque d'avant. Et ben, j'étais la seule voiture. Il n'y avait pas un camion, pas un bus, pas une autre voiture à des kilomètres à la ronde, et je roulais tout seul comme ça, avec des centaines de Cubains qui faisaient du stop, cherchant désespérément un moyen de locomotion. Donc moi, je n'ai pas connu le paradis socialiste, si je peux dire, j'ai connu l'enfer socialiste, parce que le Cuba était un enfer un peu à l'époque, mais soyons quand même objectifs et relativisons, un enfer où personne ne mourait de faim, quand même. Okay ? Il y avait des gens qui avaient faim, mais personne ne mourait de faim. Et comme je dis toujours, moi... Je ne sais pas vous, mais je pense que c'est dans les pays, dans les situations difficiles que tu reconnais la véritable nature des gens. Quand tout va bien, quand il y a de la bouffe pour tout le monde, quand tout le monde est heureux, tout le monde est sympa. Quand arrivent les vaches maigres, là, le qui est qui commence à un petit peu s'imposer. Donc je suis arrivé dans ce que les Cubains appellent la période spéciale et même les années noires, où $1 pouvait t'emmener très loin, tellement la crise était forte. Et bien c'est là où je suis, entre guillemets, pour ramener la chose à ma petite personne, mais qui n'est pas forcément déterminant, mais disons que c'est là où j'ai tourné ma casaque et je suis devenu pro-cubain, en pleine misère. Je dis ça parce qu'il y en a souvent, ouais, t'as qu'à y aller, machin. Je dis non, moi je suis devenu pro-cubain en voyant le pays dans la misère, justement. Bref, cette période spéciale va se caractériser par deux choses que j'ai trouvées très étranges. La première, c'est que le gouvernement cubain va demander à une institution... La première institution à qui elle va demander de serrer la ceinture, parce que l'État n'a plus les moyens de payer, figurez-vous que c'est l'armée. C'est un des trucs qui m'a un peu, je dis, mais comment est-ce que ça se fait que c'est l'armée dans une dictature? Généralement, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est un peu le processus dans ma tête. La deuxième chose qui s'est passée, c'est que Cuba a investi massivement dans l'éducation. Elle a construit un nombre impressionnant d'universités avec le peu de moyens qu'elle avait. Et quand je dis le peu de moyens, c'est qu'un sac de ciment valait un mois de salaire, hein. Un sac de ciment. Et que les vols de sacs de ciment, etc., c'est quelqu'un, c'est, si tu arrivais à mettre la main sur un sac de ciment et le revendre, donc les matières de construction étaient. Et c'est là qu'ils ont construit une dizaine d'universités, des écoles à n'en plus finir, etc. La grande question étant, tiens, pourquoi? La réponse était en fait donnée lorsque le gouvernement cubain a dit « La crise qui vient va être telle, si terrible que notre seule chance de garder l'unité et de préserver les acquis de la révolution, c'est par l'éducation. Avec un peuple éduqué et conscient, nous aurons une chance de nous en sortir. Sinon, t'en es fichu de nous. » Je vous cite ça de tête, mais la phrase est à peu près bonne, à mon avis. En tout cas, c'est ce que j'en ai retenu. Et là, les Américains, nous sommes, je vous rappelle, en 1992, se disant, oh là là, cette révolution, ils ne demandent qu'une seule petite poussette pour tomber. Là, c'est fini, ça y est, on les tient par la gorge. L'économie est exsangue, le pays est exsangue, il va s'ouvrir au tourisme, c'est le début de la fin, dollarisation et tout. Allez, on y va. Pam, une nouvelle couche, parce que jusqu'à là, on va instaurer la loi de 1992, la loi Torricelli, pour renforcer le blocus. Là, ils vont essayer, c'est les premiers gestes d'extraterritorialité, cette loi de Torricelli, elle s'applique aux transporteurs. Si un bateau accoste à Cuba, n'a plus le droit d'accoster dans un port américain. Pour un petit marché comme Cuba, figurez-vous que c'est super impactant. D'abord parce que les transporteurs, à cause de cette clause, font payer terriblement cher à Cuba tout transport par bateau, parce que, comme j'ai dit, le marché est souvent indigne des grandes compagnies de transport et que pour leur et à cause de la contrainte, voilà. Et aussi, c'est la loi Torricelli va interdire aux entreprises des pays tiers de louer ou de vendre à Cuba des biens ou des services dont la technologie contiendrait plus de 10% de composants cubains, américains, pardon. Donc, s'il y a plus de 10% de composants dans un appareil, ben cet appareil ne peut pas être vendu à Cuba. Bon, ça, c'est la loi Torricelli. Et les Américains attendent que la révolution tombe, mais la révolution ne tombe pas. Bizarre. La révolution, elle ne veut pas tomber. Je pourrais vous raconter des tas d'histoires, parce que c'est à cette époque-là que je commençais vraiment à m'intéresser. Mais arrivent donc les Cubains, les Américains complètement exaspérés, en 1996, vont dire, bon, cette fois-ci, ça suffit, on va sortir l'arme nucléaire. Et l'arme nucléaire va s'appeler la loi Helms-Burton. La loi Helms-Burton a été proposée et nommée d'après le sénateur Jesse Helms et je ne sais plus comment il s'appelle, Burton. Jesse Helms étant connu comme, à l'époque, il était président de la Commission des affaires étrangères du Sénat, qui est le deuxième organisme le plus important en politique étrangère, juste après le président des États-Unis. Il était connu pour se faire élire par les voix du Ku Klux Klan. C'était un homophobe. Il déclarait que les Nations Unies étaient un trou à rats. Et se vanter de ne pas avoir de passeport. Cette loi, Helms-Burton, qui fera des vagues, on n'en parle pas, mais cette loi va faire des vagues à travers le monde et jusqu'à aujourd'hui. Au début, elle s'appellera, lorsque cette loi est encore dans les cartons, et retenez bien ce que je vous dis ça, parce que ça va vous servir la prochaine fois que vous serez dans un bar. Cette loi s'appelait la loi Bacardi. Pourquoi Bacardi? Parce que la compagnie Bacardi, oui, je parle de Bacardi, la boîte qui vend de l'alcool et qui fait du rhum soi-disant cubain, était une grande famille cubaine expulsée ou qui est partie à la Révolution et qui depuis dédie tout son temps et son énergie à foutre le bordel et à emmerder Cuba et même à se mêler, d'après des journalistes d'investigation du monde diplomatique, le journaliste du monde diplomatique Hernando Calvo Ospina, même à traficoter et à fricoter avec la CIA. Donc, si un jour vous êtes dans un bar et que vous voyez, on vous propose un mojito avec du Bacardi, faites la grimace, dites que ça a un goût de pipi de chat et exigez du Havana Club, qui est un vrai rhum cubain. Non, je n'ai pas d'action, je déteste que Bacardi, c'est tout. Donc, cette loi s'appellera la loi Bacardi. Elle aura plusieurs particularités. La première particularité de cette loi, c'est qu'elle officialisera cette fois-ci, d'une manière générale, l'extraterritorialité de la loi de l'embargo américain. Alors, ceux qui ont suivi l'affaire Assange savent qu'on a parlé beaucoup dans l'affaire Assange d'extraterritorialité. D'accord? Donc, eh bien voilà, le premier pli, c'est 96. À l'époque, beaucoup de gens avaient tiré la sonnette d'alarme. Mais c'est quoi ça, l'extraterritorialité? De quel droit, etc. Il y a eu comment on appelle ça, une directive de l'Union européenne qui interdit la loi Helms-Burton sur le sol de l'Union européenne, l'application, mais elle n'est pas respectée du tout, comme je vais l'expliquer tout à l'heure. Et la deuxième particularité, à part d'être extraterritoriale, c'est que la loi est rétroactive. C'est qu'elle punit des actes dans le passé qui n'étaient pas illégaux dans le passé. La loi Helms-Burton détermine que Cuba doit devenir libérale économiquement. Alors elle énonce toute une série de mesures pour être sûre que tout le monde a compris ce que veut dire libéral. Libéralisation des banques, privatisation de la presse, machin, blablabla. Et Cuba doit devenir aussi démocratique. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé au moment où quelqu'un a dit, mais comment est-ce qu'on définit la démocratie? Ils ont dû en avoir marre. Et ils ont dit, bon, écoute, je ne sais pas, mais dans le écrit que lorsque le président des États-Unis estimera que Cuba est démocratique. Ah, ok. Donc, Cuba sera démocratique lorsque le président des États-Unis estimera que Cuba est démocratique. Donc, économie libérale et démocratique. C'est important ces deux clauses. Pourquoi? Parce que ce sont les clauses sine qua non pour que le blocus soit levé. La loi Helms-Burton précise les conditions de la levée du blocus. Donc, elle précise aussi que le président des États-Unis n'a aucun regard là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Obama est allé faire le malin en voulant, en prétendant améliorer l'embargo contre Cuba, en fait, il avait de la part du fait de la loi Helms-Burton aucun pouvoir en la matière, parce que la loi Helms-Burton l'interdit spécifiquement. La loi Helms-Burton prévoit la désignation d'une commission ad hoc qui gouvernera sur l'île le temps que tout ceci soit réglé. En fait, la loi Helms-Burton décrit grosso modo le scénario qui s'est passé en Irak quelques années plus tard. L'irakisation de Cuba, on aurait pu dire que la loi Helms-Burton, c'est un peu ça. Est-ce que c'est une surprise? Pas vraiment. Pourquoi je dis pas vraiment? Parce que quand notre ami George W. Bush a été élu de façon rocambolesque avec toutes les histoires qui ont eu lieu comme par hasard à Miami, là où se trouve la grande concentration des anticastristes cubains. Quand il a été élu président, il a amené dans son sillage un groupe de néoconservateurs connus déjà en Amérique latine. John Negroponte, qui était ambassadeur Honduras, Scott Abrams, qui est devenu le responsable des questions du Moyen-Orient, et qui était Scott Abrams, il était au Salvador. Et John Negroponte, qui était ambassadeur de Honduras, est devenu le patron de l'Irak pendant un certain temps, il me semble, ou des services de renseignement américains. Il y a eu John Bolton qui a fait parler de lui, qui aussi était qui est connu comme le loup blanc à Cuba, etc. Donc j'allais dire que cette philosophie comme ça, qui s'était cantonnée jusqu'à présent qu'en Amérique latine, avec l'arrivée de George Bush au pouvoir, George Bush Junior, derrière lui, dans son sillage, ce qu'on appellera les néoconservateurs, vont arriver comme ça et réussir à appliquer un petit peu leur savoir-faire, entre guillemets, à l'ensemble de la planète et pas simplement juste à l'Amérique latine. Il y avait une clause dans cette loi Helms-Burton qui était tellement terrifiante que le président Clinton y avait opposé son veto. Le président a toujours un droit de veto dessus. Et ce veto concernait ce qu'on appelle le titre 3, qui en gros, c'est la partie en fait rétroactive, qui disait que les ressortissants qui n'étaient pas américains aujourd'hui, mais qui ne l'étaient pas à l'époque, pouvaient porter plainte contre le gouvernement cubain pour tout ce qui avait été nationalisé. Donc il y avait un côté rétroactif, qui était tellement terrifiant de par ses implications et compliqué, complexe que tous les présidents des États-Unis qui se sont succédés l'ont suspendu, sauf notre ami Donald Trump, qui lui l'a activé, accompagné de 297, c'est-à-dire 300 nouvelles mesures pour étrangler Cuba. J'ai presque fini, mais si je devais parler que de la partie économique, je serais en train d'accomplir exactement ce que j'ai reproché aux journalistes, la décontextualisation. J'aime souvent dire d'ailleurs que Cuba, on essaie de la juger comme une artiste gymnastique, comme on voit aux Jeux Olympiques, qui évolue sur un tapis. Alors qu'en réalité, c'est une artiste qui évolue sur une poutre. Et on ne te montre pas la poutre, parce qu'on te la cache. Et après, on commence à discuter, comme si c'était une gymnaste qui évoluait sur un tapis.
Oui.
Cuba ne fait pas ce qu'elle peut, ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle peut, avec une marge d'erreur qui est permise, qui est très minime, je pense. Hein. Donc déjà, mais on pourrait maintenant parler, je vais parler de quelques autres mesures qui sont pas anodines du tout. Figurez-vous que Cuba a été victime de 3000 attentats. Ah ouais. J'ai eu un échange une fois avec Sophie Parmentier de France Info qui voulait me parler de quelque chose. Quand j'ai abordé ce sujet-là, elle m'a pratiquement raccroché au nez en me disant qu'elle n'avait pas le temps. Elle voulait écrire un article sur Cuba, sur le terrorisme, mais elle ne voulait pas parler concrètement. Donc Cuba a été victime de 3000 attentats. Bon, on fait une petite pause là et on ramène ça à la population française. Ça fait combien? Ça fait 20 000. Je vais poser calmement la question. À quoi ressemblerait une France qui aurait connu 20 000 attentats et 20 000 morts? Est-ce que c'est la France d'aujourd'hui? Est-ce que c'est la France de Macron? Est-ce que c'est la France de Hollande? Est-ce que c'est la France de Sarkozy? À quoi ressemblerait une France au bout de 20 000 attentats? Mais on préfère de jamais en parler, donc décontextualisation. Et pourtant, à Cuba, on est très loin de voir des soldats en armes se balader avec des kalachnikovs ou des mitrailleuses dans les gares, par exemple, malgré les 20 000, entre guillemets, à l'échelle de la France, attentats. Ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, les États-Unis de classer Cuba, et ça, c'est une des mesures de rétorsion dont on ne parle jamais, Cuba est, selon les États-Unis, classé dans le pays, dans la liste des pays terroristes, soutenant le terrorisme. Ce qui, en elle-même, cette mesure, induit des tas de mesures qui derrière. C'est-à-dire qu'en plus de la loi Ainsburton, de la loi Torricelli, de la loi machin truc, de la truc avec l'embargo, le simple fait d'être inscrit dans cette liste, pays promouvant le terrorisme, de facto, vous êtes soumis à un ensemble de mesures de représailles. Alors, comment est-ce que les Américains le justifient? Parce que figurez-vous que vous êtes à Cuba, il y a des réfugiés basques de l'ETA, paradoxalement, si je puis dire, avec l'autorisation et un accord du gouvernement espagnol. C'est le gouvernement espagnol qui a demandé à Cuba de les recevoir. Mais leur présence sur le sol cubain sert de justification maintenant aux États-Unis pour dire que Cuba héberge des terroristes. Et aussi de vagues accusations de soutien au mouvement des guérilleros en Amérique latine, etc. Ce qui, depuis très longtemps, est quand même difficile à prouver, à part peut-être et probablement des soutiens politiques ou sur la scène internationale éventuellement. Mais matériel, je ne sais pas. En tout cas, jamais de preuve à ce sujet-là. Mais tout toujours est-il que l'inscription sur cette liste est quand même fort de café venant de la part d'un pays qui a organisé les 3000 attentats. Parce que figurez-vous que les 3000 attentats ne sont pas venus de la haute mer, ils sont venus de l'autre côté de la baie, à 150 km de la Havane, systématiquement de la part d'organisations dont les noms sont connus et dont les auteurs de ces attentats, et je l'ai vu de mes yeux, on parle dans des interviews à la télévision américaine, malgré que le fait de faire des attentats soit interdit. Cuba est aussi inscrit dans la liste des pays qui pratiquent le trafic humain. En gros, l'esclavagisme, quoi. Ah, et ça aussi, ça induit toute une série de mesures de rétorsion, sans même qu'on ait besoin de les énumérer. Quel est le justificatif? Eh bien, figurez-vous, et c'est Mike Pompeo, le grand menteur devant l'Éternel, qui a dit que, parce que vous comprenez, les Cubains, ils vendent leurs médecins à l'étranger, ils les obligent à faire des missions, et ils sont très mal payés par rapport à ce qu'ils sont facturés. Donc, Cuba fait du trafic humain, de l'esclavagisme, etc. Et ce qui a valu à un journaliste de France Inter, 3 jours plus tard, avec une synchronisation parfaite, de pondre un article, un des couillons qui agit dans le tranche 7-9, où il a fait où il a parlé exactement dans ce sens-là, en accusant Cuba de faire du trafic humain parce que, et son raisonnement était que les médecins ne touchaient pas ce qu'ils étaient facturés. Bon, moi, ceux qui savent, moi j'étais consultant toute ma vie, j'étais généralement facturé 1 000 euros la journée ces derniers temps. Je vous assure que je n'étais pas payé 22 000 euros par mois. Bref, c'est des gens apparemment qui sont hors sol et qui ne connaissent rien à la réalité de quoi que ce soit. Cela dit, et pour préciser la chose, les Cubains, médecins, sont facturés à l'Italie, par exemple, quand ils les envoient dans le cadre du Covid, là au début, on vous en avait entendu parler, Au Venezuela, ils sont envoyés en échange contre du pétrole, c'est du truc. En Haïti, ils ne sont pas facturés. En fait, c'est selon le niveau du pays, le niveau, les moyens. Ce serait quand même un comble que Cuba envoie des médecins en aide humanitaire dans un pays occidental, en Europe quand même, il ne faut pas déconner. Donc là, ils sont facturés. On estime leur nombre selon les périodes à 40 000 en permanence à l'extérieur. À l'échelle de la France, je crois, si mes calculs sont exacts, je ramène ça à la population française, c'est comme si la France envoyait à l'étranger 200 000 médecins. Je vais reposer la même question. Que serait une France qui enverrait 200 000 médecins dans le tiers-monde? À quoi ressemblerait-elle? Est-ce qu'elle ressemblerait à la France d'aujourd'hui avec juste, je ne sais pas, un socialiste au pouvoir, un socialiste du PS, je parle? Non, sûrement pas. Bref, dans le concret, ça se traduit quoi par les petites choses de chez nous? Ben, je peux vous dire, par exemple, que lorsqu'une association qui s'appelle Cuba Linda, qui est en France, vers Cahors, là-bas, qui organise entre autres activités des voyages de tourisme à Cuba, de ses adhérents, chez l'habitant, et oui, on peut habiter chez l'habitant à Cuba, j'ai toujours fait ça d'ailleurs. Et bien, figurez-vous qu'un Bruxellois qui a voulu payer son billet en faisant un virement à Cuba Linda, le virement a été bloqué parce que c'était marqué Cuba dedans. Banque française à banque belge. Hein. Je peux vous dire qu'une amie qui organise des voyages, des tournées de groupes cubains qui travaillent depuis Lyon, voulut réserver une salle à Madrid. Salle de spectacle, et que le groupe qui devait passer est un groupe très connu à Cuba et dans le monde qui s'appelle Havana de Primera. Parce que le virement contenait le mot Havana, le règlement était bloqué par le Crédit Lyonnais. Elle a eu jusqu'à la direction du Crédit Lyonnais en menaçant de faire un procès, eux, la direction de la région, lui suppliant de changer le libellé du virement et elle, en bon cubaine, disant « allez vous faire foutre ». Je n'ai rien à foutre le blocus américain. Je fais un virement de Lyon à Madrid. Ce que je mets dans le libellé ne concerne que moi. Je peux vous dire que l'association Cuba Coopération, qui est composée majoritairement de chefs d'entreprise et d'élus, qui a financé et qu'on fait construire un projet à La Havane qui s'appelle la Maison Victor Hugo, parce qu'il y a des liens entre Victor Hugo et Cuba, eh bien, qu'ils ont vu leur virement bloqué et suspendu et l'argent saisi en tentant de faire un virement. Tout ceci est expliqué et a une explication. L'organisme policier, si je puis dire, de la police des finances américaines qui s'appelle OFAC, OFAC, qui est chargé de traquer les mouvements financiers litigieux, figurez-vous qu'elle emploie 4 fois plus de salariés pour traquer l'argent cubain qu'elle n'en emploie pour traquer l'argent du terrorisme. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un sénateur américain lors d'une commission qui s'étonnait. Il y a autant de gens, 4 fois plus, qui traquent toute transaction de et vers Cuba, 4 fois plus que pour le terrorisme en général. Voilà, j'ai à peu près fini. Je vais simplement maintenant dire que l'incompréhension des Occidentaux sur ce qui se passe à Cuba est extrêmement élevé. Je peux dire que beaucoup de gens qui vont reviennent me raconter des choses qu'ils auraient vues, entre guillemets, qui sont toujours étonnants, parfois cocasses. Je vais vous en raconter une, parce que j'aime bien la raconter, cette histoire. J'avoue que c'est une des pires que j'ai. Je garde la meilleure. Hein. Mais c'est pour expliquer un peu. Il y a quelques années de ça, des instituteurs, des profs, il me disait, oui Victor, tu racontes des trucs là, c'est super sympa, mais nous on a vu à La Havane des soldats cubains faisant du porte-à-porte et obligeant la population à signer une pétition contre l'Égypte. T'as scotché le mec. J'avoue que je savais pas quoi répondre, moi qui suis généralement assez bavard, et j'étais vraiment scié. Et je me tais, il continue de discuter, et je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte et ça m'est revenu. Paf! Figurez-vous qu'à La Havane, il y a un moustique tous les étés qui fait des ravages. Il apporte le dengue, le fièvre dengue, le fièvre hémorragique. Donc il y a une guerre contre le dengue qui est féroce, qui est menée. Les rues sont aspergées à certaines saisons. Ils ont arrêté quand ils peuvent éviter, mais il y a des brigades qui sont chargées d'inspecter maison par maison, vérifier que les gens ont bien posé les pièges à moustiques, qu'ils ont bien éliminé tous les nids à moustiques, comme les flaques d'eau dans les pneus, les machins, les trucs, etc. Donc, c'est un travail méthodique d'encadrement de la population, comme ça, de quadrillage, de la population. Et les employés qui font ça, ils ont un tenue en kaki qui pourrait ressembler à un tenue militaire, c'est vrai. Ils vont avec un registre à la main, comme ça, pour marquer et faire signer aux gens le fait qu'ils sont passés. Hein? Donc, voilà, j'avais bien visité cette maison. Et figurez-vous que dans leur dos, pour qu'on sache qui ils sont, sur leur costume de travail, leur vêtement de travail, il y a marqué le nom latin et scientifique de la moustique qui s'appelle Aedes aegypti. Aegypti. E-G-Y-P. Et voilà des gens éduqués, des instits, des professeurs qui reviennent et qui me racontent et qui transforment cette histoire-là. Mais heureusement que j'avais vécu à La Havane et que je les avais vus à l'œuvre et que j'ai fait le rapprochement entre ce qu'elles racontaient et ce que j'avais vu. Et voilà que ça se transforme, ça, cette opération de lutte contre la moustique, en une signature de pétition obligeant la population à signer une pétition contre l'Égypte. Voilà. J'aurais pu vous parler des dissidents médiatisés, parce que ça, c'est une grande question. Les dissidents, ouais, je sais que les prisonniers politiques, ouais, je sais, mais chaque fois que j'ai creusé, ben, ça a fait un peu flop, ces histoires-là. Certains de façon magnifique, d'autres de façon plus subtile. À ça, je vais répondre dans un premier temps pour ne pas m'étendre, parce que voilà, j'arrive à la fin. Si on peut parler des prisonniers politiques à Cuba, je veux bien, mais il faudrait aussi qu'on me parle des réfugiés politiques à Cuba, parce que figurez-vous que je me suis occupé, je crois que je l'ai dit, d'une association de défense des droits de l'homme en Amérique latine, et je peux vous dire que tous les latino-américains que j'ai connus de cette génération, d'une certaine génération, ils ont tous un devoir, une reconnaissance envers Cuba. Soit ils ont été réfugiés, soit ils ont été soignés, soit leur famille a été réfugiée de toute tendance politique à travers tout le continent américain. Et je peux même vous dire que j'ai rencontré des gens qui étaient spécialisés dans le recueil des combattants de l'OLP qui venaient se faire soigner à Cuba et qu'on raccompagnait en les reparachutant au-dessus du Liban. Donc le monde entier, en fait, du tiers-monde en tout cas, a une dette envers Cuba. J'ai posé la question à des autorités, j'ai cherché pendant des années ce chiffre, je me suis retrouvé même une fois en compagnie de hauts dignitaires du régime, par hasard, je me suis glissé dans un cercle de conversation lors d'une conférence, une pause, ils étaient là, je me suis glissé, c'est très informel à Cuba, on peut vraiment aborder les gens assez très facilement pour peu qu'on ait envie de le faire. Et j'avais en face de moi des ministres, le maire de La Havane et je crois que le secrétaire du Parti communiste de la région de La Havane. Et je leur ai posé la question suivante. Est-ce que vous pouvez me dire combien de réfugiés politiques Cuba a reçus ces dernières années depuis la Révolution ? Ils sont regardés entre eux, ils ont dit, bref, aucune idée. Et si, c'était 10 000 ? Ah non, en plus, on a construit des villes entières. Donc ça, rien que pour les Chiliens, on a construit des villages entiers. Ah oui, et puis les Guatémaltèques, rappelle-toi, les machins dans l'Ouest, là. Ouais. Je dis, bah 100 000 ? Ah, 100 000, ouais, sympa. Bon, peu importe, on connaîtra probablement jamais le chiffre. Il y a peut-être un fonctionnaire quelque part qui l'a sur un bout de carton et un crayon qu'il a soigneusement noté. Mais ce qui me frappe dans l'histoire que je viens de vous raconter, c'est que dans un pays du tiers-monde qui a souffert tellement de ces crises économiques et de l'agressivité de tous ces attentats, ils ont recueilli, eux, toute la misère du monde, oui, eux, et ils ne se sont même pas, et c'est ça le facteur qui me rend dingue, ils ne se sont même pas posé la question, et à la limite, ça ne les a même pas intéressés de combien. Moi, je trouve ça... Soit c'est du genre bon foutisme, selon votre état d'esprit, soit c'est le contraire, c'est un esprit tellement altruiste que de savoir le nombre ne leur a même pas effleuré l'esprit. Si ça ne dit rien sur Cuba, rien ne le dira jamais. Ça, c'est moi qui l'interprète comme ça. Mario Benedetti disait que la réussite économique... Mario Benedetti était un écrivain uruguayen que j'aimais beaucoup, il nous a quittés. Que la réussite économique n'est pas une qualité morale ni éthique. C'est intéressant, ça, la réussite économique n'est pas une qualité morale ou éthique. Et je me dis, mais c'est vrai, au fait. Parce que si c'était le cas, on serait tous solidaires de Bill Gates, non ? Ça, c'est une réussite économique et financière. Mais je ne suis pas solidaire de Bill Gates. Et pourtant, on est toujours en train de parler du niveau de vie, niveau de vie, niveau de vie, bien de consommation. Est-ce que les Cubains, ils ont des téléphones portables? Est-ce qu'ils ont des ordinateurs? Est-ce qu'ils peuvent s'acheter maison, etc. Et je me dis, ouais, c'est vrai que je ne suis pas solidaire de Cuba à cause des enfants scolarisés. Parce que sinon, dans ce cas-là, je serais aussi solidaire de, je ne sais pas moi, le Canada, où tous les enfants sont scolarisés. Bien. Je ne suis pas, solidaire de Cuba parce que tous les enfants vont à l'école, parce que sinon je serais solidaire de la Suède, parce qu'en Suède aussi les enfants vont à l'école. Et c'est là que la vraie question se pose, c'est qu'en fait tu es solidaire de quoi exactement? Tu es solidaire d'une philosophie et des choix qui sont faits dans un contexte, pas des réussites. Je considère pour ma part qu'il y a des pains partagés, même secs, qui contiennent plus d'humanité que toutes les bonnes œuvres d'un Bill Gates. Ça c'est une phrase... Alors, en définitive, on constate une chose, moi je constate une chose, c'est que d'un côté, du côté des pouvoirs, on arrive à vous parler d'un battement d'ailes de papillons dans l'Amazonie pour justifier la fermeture d'une usine ici en France, par exemple. Parce que le monde est global, parce que le monde est devenu un village. Par contre, quand il s'agit de s'intéresser aux révoltes ailleurs, aux luttes d'ailleurs, à tous les autres nous qui combattent ailleurs, ça, d'un seul coup, tout est fait pour nous distancier de ça. D'un seul coup, les battements d'ailes de papillons en Cuba n'ont absolument aucun intérêt pour nous, ne nous regardent pas. Pourquoi tu t'intéresses à ça? D'un seul coup, pour parler à ton frère de l'autre côté des mers, on te dit cette fois-ci, ben non, figure-toi que le monde est redevenu... le monde, c'est plus un village, comme par hasard. Donc je dis, moi, qu'il faudrait qu'on fasse aussi un peu l'inverse et qu'on s'intéresse un peu plus à toutes ces différentes formes de lutte. Je dis différentes formes de lutte parce qu'il y a une chose qu'il faut constater de facto, en Amérique latine en tout cas, c'est que vous soyez plutôt un pro-Lula, la voie social-démocrate par les élections, que vous soyez un Evo Morales, la voie indigène populaire, que vous soyez un Cubain révolutionnaire, ben figurez-vous qu'entre eux, c'est pas comme ça qu'ils voient les choses. Ils se respectent entre eux, ils s'admirent entre eux, et ils reconnaissent les différentes formes de lutte qui correspondent aux conditions des pays respectifs. C'est-à-dire que les divisions que nous inventons entre nous, ben, entre eux, ça n'existe pas. Voilà. Et pour finir, je dis moi que on me demande souvent pourquoi tu aides Cuba. Moi, je dis que j'aide pas Cuba. C'est Cuba qui m'aide à réfléchir, à espérer, à imaginer des choses. Moi, en échange, je suis simplement solidaire, rien de plus. Donc j'ai fait ce bouquin pour donner la parole aux Cubains, parce que c'est eux qui devraient parler plus souvent. Moi, je suis content d'être là avec vous, mais chaque fois je le dis, je trouve que c'est les Cubains qui devraient être là à vous parler. Ils auraient beaucoup plus de choses à vous dire et beaucoup plus de crédibilité probablement. Voilà, merci pour votre écoute. Est-ce que j'ai été long? Putain, oui, encore une fois. Je suis désolé, les gars.
Tu m'entends ou pas?
Ouais, je t'entends.
Ok, merci. Ouais, et puis si tu connais un Cubain qui parle français ou qui peut parler français et se faire comprendre, nous, c'est avec plaisir qu'on peut le recevoir et faire une soirée, un livre blanc avec lui. Et toi aussi, au passage.
Eh ben.
Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va juste faire une petite pause parce qu'on va couper l'enregistrement pour pas que ce soit un fichier trop lourd à traiter par la suite et on relancera l'enregistrement du coup pour les questions. Donc il y a une petite pause. Si tu veux en profiter pour te rafraîchir le gosier, Victor, parce que t'as bien enchaîné là.